Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Bien, nous abordons à présent le premier thème de cette émission. Pourquoi est-il important de sauvegarder la forêt? Vous savez, la RDC a la plus grande forêt du monde après l'Amazonie. Cependant, ce massif forestier subit une forte pression de la part des autochtones et des exploitants forestiers. On déplore des coupes massives et incontrôlées des bois avec des conséquences néfastes. Alors pourquoi est-il important de préserver la forêt? Jean-Robert Bouangoy est environnementaliste. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors dites-nous, pourquoi est-il important de sauvegarder la forêt?
D'abord, la forêt joue des rôles très importants sur le plan local. Vous savez que nos sols, contrairement à la perception populaire, nos sols ne sont pas riches. Donc nous avons une bande de sols riches dans les Kivu qui sont des sols montagneux et qui viennent des volcans. Et nous avons une deuxième bande de sols moyennement riches qui proviennent de la décomposition des roches calcaires dans le Bas-Congo. Mm-hmm. Mais le reste des sols de notre pays est pauvre. Et d'une manière générale, la fertilité est gardée par les arbres. Donc ces sols-là ne sont pas fertiles. Mm-hmm. C'est pour cette raison que vous voyez le recours à ce qu'on appelle slash and burn agriculture, c'est-à-dire l'agriculture sur brûlis. Donc c'est pour ramener les éléments qui étaient retenus par les feuilles, les éléments nutritifs qui étaient retenus dans les feuilles au niveau du sol pour nourrir les cultures. Donc sur le plan local, on a besoin de la forêt pour retenir les nutriments nécessaires pour les cultures. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses est que le sol, la végétation forestière, d'une manière générale, crée un certain microclimat. Donc il y a un phénomène qu'on appelle la brise de terre. Donc lorsqu'on a un excès de radiation qui arrive, vous voyez, on le vit chaque jour, mm-hmm. Les arbres contribuent à pouvoir bloquer cet excès et donner une sensation du bien-être aux gens qui vivent à côté. Donc vous voyez, souvent nous-mêmes, personnellement, chacun, lorsqu'il fait trop chaud, chacun va sous un arbre et il a une sensation
De fraîcheur.
De
bien-être.
Exactement. Voilà. Et cela fait que, justement, la forêt se recrée autour d'elle-même, en fait, en réalité, à cause de ce microclimat. La troisième chose est que, sur le plan maintenant global, la forêt contribue à une régularisation du climat. Donc, lorsque nous avons des arbres qui se décomposent, ils émettent aussi des gaz à effet de serre qui contribuent à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère et donc à l'augmentation de la température du système, avec comme conséquence ce dont on en parle actuellement à Lima, les changements climatiques.
Donc les arbres contribuent à la régulation du climat.
Tout à fait, ils contribuent à la régulation du climat et vous savez que l'arbre lui-même est un consommateur de CO2, donc il contribue aussi à diminuer la quantité de gaz à effet de serre qui se trouve dans l'atmosphère. Mais lui-même, étant consommateur de CO2, contribue également, lorsqu'il est coupé, à l'émission des gaz à effet de serre. Et donc, il fait l'inverse et il crée justement le fait. Donc, il contribue lui-même à la destruction du climat.
Voilà, donc on retient que l'arbre est important et aujourd'hui, vous dites qu'il est important de le sauvegarder. On sait qu'il y a une coupe massive et incontrôlée de bois et les populations autochtones également exercent une pression sur la forêt parce que c'est là-bas que ces populations trouvent leurs ressources. Aujourd'hui, alors avec tout ça, devant cette situation, comment sauvegarder la forêt?
Oui, tout à l'heure, j'avais oublié de dire que la forêt constitue aussi un habitat pour la biodiversité et vous savez que la plupart des populations chez nous se nourrissent également de la forêt, donc la pêche se fait dans les marécages, les rivières qui sont protégées par la forêt surtout, et ensuite la chasse qui est vraiment importante s'y fait là-bas. Alors dans notre pays, en République démocratique du Congo, l'optimum qui a été atteint aux environs du quaternaire était que l'ensemble du pays était couvert d'une forêt. Bon, maintenant, au départ, il y a eu plusieurs évolutions. À un moment donné, c'était une palmeraie, donc dans l'ensemble du pays, là, c'était une palmeraie. Et puis, avec l'évolution du climat, il y a eu spécialisation avec des nouvelles espèces et tout ça. Et donc maintenant, nous avons les types de forêts que nous avons aujourd'hui, notamment la forêt dense sèche qui a déjà disparu, ce qu'on appelait au Katanga Muhulu. Elle a complètement disparu. Il y a une petite bande qui existe dans les environs de entre Tembo et Kaemba, dans ces environs-là. C'est la seule Moulou qui nous reste en République démocratique du Congo. Le reste, c'est souvent une forêt claire, donc la Miombo. Et en dehors de celle-là, nous avons la grande forêt de la cuvette centrale, qui avait été initialement, qui avait couvert la plus grande partie du Bas-Congo, et qui a complètement disparu.
Complètement disparu.
Oui, complètement disparu en dehors de deux massifs qui sont maintenant protégés, notamment la réserve de la biosphère de Louki et actuellement aussi une réserve, la réserve de Madiakoko, au nord de Madouda, dans les Mayombe. Alors, ça, c'est triste parce
donc
que...
Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, nos forêts sont en danger, aujourd'hui.
Exactement. Ouais. Nous avons déjà épuisé ce qu'il y avait dans le Bas-Congo. Nous avons épuisé ce qu'il y avait dans le Katanga.
Donc, nous sommes en train de déforestation intensive.
Voilà, nous sommes en train d'avancer maintenant. On a déjà détruit tout ce qu'il y avait dans le sud de Bandundu. Donc, à l'exception de cette forêt dense sèche, en fait, qui se trouve sur du sable. Donc, c'est une région où on ne peut rien faire en termes agricoles. Et c'est une région qui est quand même assez enclavée. Donc, pour qu'on puisse donner de la valeur, notamment en ce qui concerne le charbon de bois. Alors, maintenant, on est en train d'avancer pour détruire les forêts de Maindombe qui se trouvent maintenant à la frontière. Et puis, bon, on avance. Et vers le nord, on est en train de détruire sérieusement...
Les exploitants forestiers sont en train de couper les arbres,
bon,
c'est ça?
Oui et non. Disons que dans le Maindombe, la situation était d'abord conduite par les exploitants forestiers. Donc, il y a eu un certain nombre de sociétés forestières qui se sont installées dans le Mayombe et ils ont coupé, mais...
Sans reboiser.
Oui, mais ce ne sont pas... Il faut dire que ce n'est pas l'exploitant forestier qui est l'agent final de la dégradation. L'agent final de la dégradation, c'est l'agriculture itinérante sur brûlis. Donc, dès qu'on enlève les gros arbres, ça devient plus facile pour les petits exploitants agricoles de pouvoir y entrer et ils vont maintenant faire de l'agriculture sur brûlis.
Donc ce sont les exploitants, les paysans qui font l'agriculture.
Tout
qui
à fait.
Qui détruisent.
Ils viennent après les exploitants forestiers. Donc les exploitants forestiers sont les premiers agents de la dégradation.
Oui.
Et ensuite il y a les paysans qui viennent avec la fabrication de charbon de bois et aussi avec l'agriculture sur brûlis. Donc c'est un peu ça, c'est un peu complexe, c'est un modèle qui est un peu complexe, mais c'est comme ça. Mais il y a des endroits où il n'y a pas eu vraiment de grandes exploitations forestières, mais qui ont été dégradées. Par exemple, le sud de Maïndombe ou le nord, le sud Bandundu a été dégradé sans qu'il puisse avoir des grandes exploitations forestières. Donc directement par l'effet de la des communautés.
Des communautés, bien sûr. Je reviens à vous dans quelques instants. Ce sujet vous intéresse. Nous parlons aujourd'hui de la sauvegarde de la forêt. Pourquoi est-il important de sauvegarder la forêt? Appelez-nous au 081 890 63 94 pour participer. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs organise une série d'émissions sur les institutions provinciales. Chaque mercredi, à partir de la semaine du 9 mai 2011, l'émission Parole aux auditeurs se focalisera sur une province. Nous allons consacrer l'exclusivité des interventions aux auditeurs habitant la province concernée. Quel bilan faites-vous de vos institutions provinciales? Parole aux auditeurs, prenez la parole et nous vous écoutons.
Bien, nous poursuivons cette émission avec notre invité. Pourquoi est-il important de sauvegarder la forêt, Jean-Robert Bongoy, environnementaliste. Vous dites que la dégradation de la forêt commence avec les exploitants forestiers et ensuite les paysans qui font l'agriculture sur brûlis viennent également détruire, n'est-ce
et
pas
Et le charbon de bois aussi.
Oui, le charbon, avec la fabrication du charbon de bois. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que on est en train de perdre notre forêt et que faut-il faire pour sauvegarder, pour préserver ce qui nous reste?
Bon, il faut jouer sur les causes de la déforestation. Nous savons que si les exploitants ne font que dégrader la forêt, donc on peut aller vers une exploitation rationnelle, c'est-à-dire l'application stricte, par exemple, des plans d'aménagement pour les exploitants pour éviter qu'ils puissent faire dégrader la forêt. Ensuite, on dit que ventre affamé la pointe d'oreille, on peut pas demander aux exploitants, aux paysans de ne pas faire l'agriculture. La solution en ce moment-là, c'est une intensification agricole, parce que le coupable, c'est, il faut le dire, le coupable c'est le manioc, la culture extensive du manioc. Maintenant, il y a suffisamment d'espace dans lesquels on peut faire intensifier l'agriculture. Donc la solution, c'est vraiment l'intensification agricole.
C'est l'intensification agricole. Je reviens à vous tout à l'heure, monsieur Bouangoy. Vous voulez participer à cette émission? Appelez-nous au 081 890 63 94.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission. Au Capifoot, chaque dimanche de 18 à 19h, autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capifoot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Martin Kobler fait le bilan de l'année 2014 et répond à vos questions en direct sur les médias sociaux de la MONUSCO et sur www.radiokepi.net ce jeudi 4 décembre à partir de 15h30, heure de Kinshasa. Vous voulez participer au débat? C'est simple. Suivez-nous et envoyez vos questions et commentaires sur les pages Facebook de la MONUSCO, de Radio Capi et sur Twitter. Une heure avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, c'est ce jeudi 4 décembre de 15h30 à 16h30, heure de Kinshasa. Toutes vos questions sur la MONUSCO sont les bienvenues.
Pourquoi est-il important de sauvegarder la forêt? Jean-Robert Bongoy, environnementaliste, vous avez dit tout à l'heure, la première chose c'est d'identifier les causes et proposer des pistes, des solutions.
Tout à fait.
Mais vous avez déjà parlé des causes, maintenant quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauvegarder la forêt?
Bon, disons que il faudrait que le ministère de l'Environnement commence, parce que ça commence en amont, donc que le ministère de l'Environnement et les ministères de l'Environnement concernés au niveau des provinces puissent commencer par faire respecter les plans d'aménagement auprès des exploitants forestiers pour qu'il n'y ait pas une surcoupe.
Oui,
ensuite, qu'on puisse intensifier l'agriculture au niveau des paysans, aussi diversifier les cultures. Il faut qu'on puisse essayer de sortir un peu de la monoculture de manioc, parce que avec la monoculture de manioc, d'abord, les prix baissent parce que les quantités qu'on voit sur le marché sont trop élevées. Ensuite, le manioc demandant 100% d'éclairement et appauvrissant le sol très rapidement. Donc, il faut essayer de voir tout ce que nous mangeons, qu'on puisse produire tout ce que nous mangeons.
Diversifier les cultures.
Voilà.
Et quoi d'autre? Vous avez dit qu'il faut faire respecter le plan d'aménagement. Qu'est-ce que prévoit ce plan?
Bon, normalement, il y a une dimension minimale de... un diamètre minimal de coupe. Il faut que ce diamètre minimal de coupe soit respecté. Il faut qu'on puisse laisser suffisamment des arbres semenciers au niveau de la forêt pour qu'on s'assure de la reproduction des espèces. Il faudrait que on puisse fermer les pistes de débardage et les routes d'exploitation forestière après coupe, pour éviter qu'il y ait des gens qui vont y entrer et continuer à faire le travail de dégradation. Et finalement, donc...
C'est quoi le débardage?
Donc, les pistes par lesquelles on fait sortir les gros tiges de bois.
Mmh.
Oui, c'est ça les pistes de débardage. Donc, il faut vraiment fermer ces pistes de débardage et aussi évoluer vers une exploitation à faible impact. Donc, et c'est, l'exploitation à faible impact est aussi éligible au niveau notamment des mécanismes RED. Donc, les exploitants peuvent être rétribués en faisant un meilleur aménagement de leur concession.
Comment, par exemple?
Puisqu'ils vont, donc, dès qu'ils font l'exploitation à faible impact, on va comptabiliser les nombres d'arbres qu'ils ont sauvés en faisant une exploitation à faible impact, et ces arbres-là peuvent être éligibles à obtenir des compensations dans le cadre du protocole de Kyoto.
Parce que les exploitants ont besoin d'argent, et ils coupent pour aller vendre, ils veulent couper beaucoup plus de bois. Pour, alors quand vous parlez de l'exploitation à faible impact, je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont trouver leurs bénéfices.
Exactement, s'ils ont donc des mesures incitatives comme celle-là, hein, comme, disons, le recours au mécanisme de Kyoto pour les rétribuer pour un meilleur aménagement forestier. En ce moment-là, ils vont accepter de participer.
Est-ce qu'il y a certains qui le font déjà ici, à RDC?
Pas encore, mais je crois qu'il y a un exploitant qui est en train de travailler avec WWF pour évoluer vers l'exploitation à faible impact.
Nous avons un auditeur en ligne, Paulin, il nous appelle des Kananga. Vous voulez également participer, appelez-nous 081-890-63-94. Paulin, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody.
Quelle est votre question?
Oui, j'avais des petites préoccupations à poser à notre invité. Par rapport d'abord à l'émission, c'est un bon sujet, il mérite d'être parlé à la radio. Mais juste, je voulais savoir, ma première question était comme celle-ci. C'est vrai, elle paraît amusante, mais elle mérite d'être posée. Je voulais demander à l'invité s'il y a aussi les désavantages de la forêt, donc l'excès de vastes étendues de la forêt sur les territoires nationaux. Bon, la deuxième question aussi, parce que après avoir suivi l'invité... avec attention, il a dit que la terre, le sol congolais n'est pas du tout riche. Maintenant, cette richesse n'est pas fertile plutôt. Mais cette fertilité est gardée par la forêt, comme il a dit. Mais je voulais juste savoir, qu'est-ce qui peut préconiser ou donner comme solution aux cultivateurs congolais qui pensent toujours faire la déforestation en catastrophe pour maintenir toujours leur terre fertile? C'était ça un peu mes petites préoccupations.
Bien. Mava, vous êtes aussi à Kananga, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, hein. Mavé.
Bonjour, Rodi, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les autres techniciens en ce moment.
Quelle est votre question, Mavé?
Oui, j'ai une seule question. Je voudrais demander à l'invité de nous donner les conséquences ou les avantages que peuvent provenir du fait qu'on coupe les grands arbres qui, parfois, parce que ici à Talanga, les autorités sont en train de procéder des coupages, je ne sais pas, à la coupe des arbres qui avaient laissé les Belges. Ben ouais, ils plantent le flair qui donne l'image, une bonne image aussi la ville. Ben on ne sait pas, est-ce que l'invité peut nous donner les conséquences, ou soit les avantages qui peuvent provenir du fait qu'on coupe les arbres pour planter le flair.
D'accord, merci. Couper les gros arbres pour les remplacer par des fleurs, Monsieur Bangoué.
Oui, je vais commencer par les désavantages de la forêt. Bon, d'une manière générale, on parle des avantages. Mais on peut constater que dans toute la zone forestière, par exemple, la densité démographique est faible. Donc, puisque le milieu est propice pour la reproduction, disons humaine, pour la vie humaine, mm-hmm. et pour les animaux, eh ben les conséquences aussi est que une des conséquences est que bon, le milieu est aussi propice pour la reproduction, par exemple, des bactéries, des virus. Donc mmh. vous avez
l'excès
vu
de forêt, il a parlé de l'excès de forêt.
Oui, vous avez vu que l'Ebola, par exemple, fleurit bien au niveau des zones forestières. Hein. On a commencé par Yambuku. Bon, il y a eu une petite déviation sur Kikwit, mais il y a eu Ebola essentiellement dans les zones forestières. Donc, et aussi, il y a un certain nombre important de maladies, disons bactériennes, qui sont liées justement à la présence de la forêt. C'est pour cette raison que le taux de mortalité est quand même plus élevé en zone forestière par rapport aux zones de savane. Si vous essayez de voir la carte démographique de la RDC, vous allez voir que les zones de savane sont beaucoup plus peuplées
que les zones forestières. Donc quand il y a aussi, tel qu'il a dit, un excès de forêt, il y a aussi des désavantages. Hein,
bon, certains... sur le plan de la santé essentiellement, oui. Il y a ces désavantages-là, mais si on essaie de voir les avantages et les désavantages, on voit que ça penche largement vers les avantages d'avoir des forêts et de protéger nos forêts.
Mmh. Gentil, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour aussi à l'invité du jour.
On vous écoute.
Oui, je voulais demander à l'invité du jour s'il peut nous combien de forêts que nous possédons ici en RDC, mais pour nous les casser, si nous voulons aussi faire l'étude sur base des plantes, nous pouvons s'évaluer aussi quelles forêts pour qu'on puisse mener nos études.
Gentil, le thème du séjour, c'est comment préserver, sauvegarder nos forêts. Donc, est-ce que vous avez une question par rapport à ça, à la sauvegarde de la forêt?
Oui. Maintenant, je pose encore la question à notre invité. Par exemple, chez nous, ici à Kananga, nous avons des grands arbres pour les arbres de baobab. Mais on voit les autorités en train de couper ces arbres-là. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux autorités afin de... parce que ce sont les arbres qui sont aussi la fierté de notre province. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aussi aux autorités pour protéger nos arbres-là? Merci, M. Genaïs.
Bien, merci, M. Bangoué.
Oui. Alors, il y a notre ami qui avait demandé aussi de Kananga, qui avait demandé qu'est-ce qu'on peut faire en termes, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux agriculteurs. Nous avons déjà dit qu'il faut une intensification agricole. Donc, il y a des méthodes de fertilisation, notamment l'agroforesterie, qu'on utilise pour augmenter la fertilité du sol. Mmh. Aujourd'hui, on est en train d'explorer d'autres méthodes, comme les biochart. Donc, une fertilisation en utilisant, par exemple, le charbon, donc une combustion incomplète. Et on peut essayer, ce sont des méthodes qui marchent déjà dans certains pays.
Donc il faut arrêter avec l'agriculture surbrûlée, itinérante surbrûlée, parce qu'elle cause beaucoup de dégâts.
Bon, disons que je ne dirais pas ça. Il faut éviter d'aller détruire maintenant la forêt primaire, puisque nous avons suffisamment d'espaces de forêt secondaire, et c'est dans ces espaces-là qu'on peut faire l'agriculture, même surbrûlée. Et surtout faire la fertilisation pour qu'on puisse fixer les paysans dans le même espace. Donc, qu'ils puissent faire l'agriculture dans le même espace qu'on fait, comme on fait ailleurs dans le monde. C'est ça. Bon. Pour notre collègue qui a demandé...
À Kananga, où les autorités coupent les grosses arbres pour les remplacer par des fleurs.
Oui, la question est revenue à deux reprises.
Oui.
Ici, il y a un problème. Vous savez que lorsqu'on va enlever les gros arbres, on va vous enlever aussi un espace de repos important. Nous avons dit que nous tous, on va s'abriter sous un arbre lorsqu'il y a un soleil vraiment accablant. Et on se rend compte que vraiment, on a une sensation de bien-être. Donc, dans plusieurs villes du monde, on fait l'inverse. On plante des arbres à côté des maisons pour créer justement ce microclimat-là qui fait que on vive un peu bien, on se sent un peu plus à l'aise. Maintenant, ici, on fait l'inverse, on coupe les arbres. Bon, c'est une perception que nous avons. Ce n'est pas la faute des autorités, c'est nous-mêmes. Nous avons tous cette perception-là, puisque nous avons grandi, on nous a dit que la forêt, il faut... Celui qui coupe la forêt, c'est le champion, hein, c'est le plus grand, puisqu'il crée des richesses. Il faut changer un peu la perception, puisque actuellement, s'il coupe les arbres qui ont été plantés il y a longtemps, ces arbres-là deviennent aussi un danger pour la population, puisqu'ils ont vieilli, donc ils ont déjà possiblement des maladies, ils peuvent tomber à tout moment. Mais on peut couper et remplacer par d'autres arbres.
Couper et remplacer par d'autres arbres.
Tout à fait.
Et non pas par des mais remplacer par des fleurs, ça c'est
bon. La décoration, vous savez que même la foresterie est un art. Donc on peut combiner les arbres avec les autres plantes, floristiques. Donc c'est bon de pouvoir donner une belle image, mais ça n'exclut pas qu'on puisse faire une bonne foresterie qui montre justement cet art-là.
Bien, Jean Kalongo et Tabutembo, docteur Alinga nous appelle de Kinshasa. Jean, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quelle est votre question, Jean?
Oui, parce que j'avais suivi l'invité et j'avais appris qu'il disait... Après les exploitants forestiers, il y a aussi les paysans qui déboisent. Alors, j'aimerais juste demander son avis par rapport à ce qui concerne ce sujet. Alors, les populations sont vulnérables. Et qu'est-ce qu'ils conseilleraient alors les paysans là-bas qui n'ont plus d'autres moyens de cultiver? Alors, quel genre de culture qu'ils doivent appliquer parce qu'ils n'ont plus de terrain ou ça s'étendit à ciel ouvert? Voilà, c'était ça ma question.
Merci. Docteur Alinga, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs. Le sujet est très important. Ma question est la suivante, si l'invité peut nous éclairer. La forêt, il l'a si bien dit, la forêt contribue énormément à la survie de l'humanité tout entière. Et nous avons une des plus grandes forêts du monde. Et cette forêt nous sert à la fois pour l'agriculture, mais à la fois également comme source d'énergie. Vous savez que nous avons un déficit important d'énergie. Par contre, les pays développés, ils contribuent énormément en détruisant par la production de gaz à effet de serre qui est tamponnée par les non-forêts. Et eux, les pays développés, nous interdisent, nous, d'exploiter nos forêts. En compensation, qu'est-ce que la communauté internationale propose, notamment aux pays qui regorgent les grandes forêts, comme notre pays, la plupart des pays d'Afrique centrale et d'Amérique latine. En compensation, qu'est-ce que nous gagnons, nous, en nous interdisant, nous, d'exploiter nos forêts, qui nous servent à la fois de production alimentaire, animale, et même en source d'énergie.
D'accord, merci. Docteur Alinga, monsieur Bongoy.
Oui, je vais revenir aussi sur la question de notre frère là. En ce qui concerne la superficie forestière, bon, sur ma carte, c'est 128 millions d'hectares. Actuellement, le ministère de l'Environnement parle de 160 millions d'hectares de forêt pour l'ensemble de la RDC.
Il a parlé, il y a Jean Kalongo qui a parlé des paysans. Aujourd'hui, les paysans, on leur dit de ne plus faire, de réduire la pression sur la forêt. Mais qu'est-ce qu'on leur propose, hein? Y a-t-il oui, d'autres alternatives?
Oui, les deux questions sont un peu liées. Questions sont un peu liées. Ici, je voudrais dire que la forêt, l'existence de la forêt est d'abord un avantage pour nous-mêmes, localement. Donc, je commençais par dire que nous, c'est notre mère nourricière. C'est là où nous tirons les gibiers, c'est là où nous allons
les
souvent
plantes,
à, la,
les plantes médicinales.
À la pêche.
Oui.
C'est là où nous avons les plantes médicinales. C'est aussi là où nous avons les sols fertiles.
Mmh.
Donc, c'est important que nous puissions la protéger dans ce sens-là. Je dis que l'agriculture extensive sur brûlis est une consommation de luxe pour nous en termes agricoles. C'est une consommation de luxe. Nous n'avons pas besoin de couper tous ces espaces qu'on coupe actuellement. Si nous avons des bonnes méthodes de culture, nous pouvons produire beaucoup plus sur des espaces qui sont déjà dégradés avec des bonnes méthodes de culture. Aujourd'hui, nous avons des systèmes agroforestiers qui permettent de mélanger les cultures avec les arbres fixateurs d'azote et qui font augmenter la productivité agricole. Nous avons également des méthodes de fertilisation, comme j'ai cité les biochar, qui viennent d'être développées avec succès à d'autres endroits du monde, donc qui permettent d'arriver au même rendement que si nous allons, ou même mieux que si nous allons au niveau des forêts primaires.
D'accord.
Maintenant, pour revenir sur ce que le docteur a dit tout à l'heure.
En compensation, on nous interdit d'exploiter les forêts, mais qu'est-ce qu'on nous propose?
Ben voilà, donc c'est quand même très très frustrant pour tous les pays forestiers du monde. C'est frustrant pour la RDC, pour le Brésil, pour l'Indonésie, qui sont les plus grands poumons au niveau du monde tropical. Actuellement, il y a une réunion à Lima. Moi, personnellement, j'ai participé à plusieurs COP, mais j'ai arrêté de participer à ces réunions-là parce que ça ressemble un peu à un cirque. On avait pris des mesures au niveau de Kyoto pour qu'il y ait des compensations pour les gens du sud qui ont des forêts. Et c'est ainsi qu'on a notamment les mécanismes RED. Et nous avons une première concession RED en RDC qui a été certifiée dans le Maindombe.
C'est la concession que vous dirigez dans le Maindombe.
Tout à fait. Alors, maintenant, le problème avec ça, c'est que, bon, les gens du Nord ne veulent pas acheter les crédits carbone. Ils n'achètent pas, ou ils achètent des crédits à moindre frais, pas nécessairement ceux qui proviennent de la forêt. Ça fait un problème parce que ce n'est pas contraignant. Et pourquoi
là-bas,
ce n'est pas contraignant?
Vous préservez la forêt et vous faites la séquestration du COD.
Oui,
on peut calculer pour faire la
compensation. On a une forêt qui a un équivalent tel de COD et qu'on peut établir un modèle pour montrer que on a réussi à protéger tant d'hectares de forêt et par conséquent, il y a autant d'équivalents en crédit carbone. Ce sont ces crédits carbone qui sont mis en vente suivant les mécanismes de Kyoto. Bon, maintenant, ce qui arrive est que ce n'est pas contraignant. Ce n'est pas contraignant parce que les États-Unis refusent d'entrer dans ce marché-là. Hein, notamment, la droite américaine estime qu'il s'agit d'une nouvelle taxe. Et même que vous avez suivi un des leaders du Congrès américain de droite actuellement, qui sont en majorité, il disait que il n'y a pas, la science ne lui permet pas d'affirmer qu'il y a une relation de il y a changement climatique.
Alors, vous imaginez, lorsque des gens aussi responsables peuvent émettre des hypothèses aussi irresponsables, nous sommes justement, nous avons un problème dans le monde. Donc, les États-Unis, qui est le plus grand pollueur, ne veut pas entrer. La Chine aussi, un des très grands pollueurs, n'entre pas. L'Inde, on a suivi que le Canada avait même convaincu le Japon à pouvoir se retirer du protocole qui avait été signé à Kyoto. Donc, vous comprenez que c'est quand même, c'est très, très frustrant. Il faudrait que les pays du Sud puissent trouver un mécanisme pour faire valoir ce que de droit.
Qu'est-ce qui doit être fait exactement?
Bon, écoutez, ce sont actuellement des négociations. Ils sont en négociation, les négociations sont assez intenses. Pour le moment, les accords s'obtiennent souvent les derniers jours à minuit. Mais il faudrait que les pays du Sud puissent aller en bloc pour faire face à cette réticence ou D'accord. cette résistance des pays du Nord.
Bien, merci Monsieur Jean-Robert Bangol. Je rappelle que vous êtes environnementaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci.